Vous écoutez Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde. Toutes nos émissions sont disponibles en balado via laplumedefeu.com. Aube, épisode 10.
À quand remonte votre dernière marche en forêt?
Qu'est-ce qui vous fait le plus de bien? L'air frais? L'odeur de l'humus? Le chant des oiseaux? Les paysages à perte de vue?
Les forêts sont les plus grands habitats de la planète.
On retrouve plus d'espèces différentes dans la forêt tropicale que n'importe où ailleurs sur Terre, en excluant bien sûr les océans.
Ce sont aussi les témoins de notre histoire. Le plus vieil arbre vivant aurait plus de 5000 ans, et il est toujours debout.
Alors que le Pando, une forêt de plus de 43 hectares, tous reliés au même système de racines, est composé au final d'un seul être vivant qui serait âgé de plus de 80 000 ans.
Bref, il y a plus d'histoires dans les forêts que sur les pages de tous les livres qu'on a pu imprimer à partir de leur matière ligneuse.
Dans ce 10e épisode, Hope s'est penché sur la forêt, comme milieu de vie, comme un legs de nos ancêtres duquel il faut prendre soin, comme un espace où vivre des expériences et surtout se découvrir soi-même.
Les voyages en canot et le camping sans trace, les bienfaits des arbres et des plantes,
et la préservation des forêts comme milieu de vie sont quelques sujets abordés dans cette émission.
On te propose de te rassembler autour de valeurs humaines, écologiques et collectives. De prendre action, simplement, par une prise de conscience.
Le mot-clé? Dans le bois.
Je suis au milieu d'une autoroute énorme qui s'étire devant moi en ligne droite jusqu'à l'horizon. Je me sens pressé, anxieux d'être en retard. Faut aller plus vite, faut en avoir plus, pas le temps d'en avoir juste assez. Chaque côté des panneaux qui me présente la fille de qui je vais tomber amoureux, les belles choses que je vais acheter pour me sentir riche, la grosse voiture qui va me faire sentir tout puissant. Toujours la même étendue de béton qui s'étire devant moi comme une énorme pipeline, comme un trou d'une mine dans laquelle on voit pas le fond. Ma radio qui me crie dessus. Enverdeur, terroriste, paresseux, rat, gratteux de guitare, serre-toi la ceinture, travaille plus, fais ta juste part. On se suit sur l'autoroute comme sur une chaîne de montage. L'air est chaud, la poussière, le gaz. C'est irrespirable. L'espace rétrécit. En avant, en arrière, la même étendue infinie de béton, les mêmes panneaux. J'étouffe, j'ai mal au cœur. Je m'accote sur l'accotement. J'essaie de récupérer pour réembarquer sur l'autoroute. J'essaie de reprendre des forces, mais j'ai plus rien où puiser. Étourdi. Tout tourne, les panneaux, le ciel gris, l'asphalte. Je ferme les yeux, c'est pire. Le ciel gris, l'asphalte, le ciel gris, l'asphalte. On me klaxonne. Qu'est-ce que tu fous là? Tasse-toi du chemin. En ouais, tu peux pas rester là toute une vie. Ils ont raison. Je peux pas rester là. Fuck it. Je cours. Je cours, je m'enfuis comme du napalm. Je cours le plus loin possible, loin de la chaleur asphyxiante, loin du bruit assourdissant, loin du béton. Je m'enfonce profondément dans la forêt. Je vois rien sinon des points noirs. Je sais pas si j'ai les yeux ouverts ou fermés. Il y a comme un son qui me poursuit. Il vient peut-être dedans de moi. Je cours, et soudain, plus rien. Plus de panneaux, plus de filles à grosses boules, de voitures, d'autoroutes. Plus d'odeur de brûlé, plus de bruit. Plus d'images, plus de sons, plus d'odeur. Je ressens un vertige. Un vide autour de moi qui me fait prendre conscience du vide en dedans. Je me laisse tomber par terre. Ça a commencé par un chatouillement. Puis une sensation de chaud-froid, comme une première fois. Couché dans l'humus, je sens les fourmis me marcher dessus. Les brindilles sur le sol, la douce humidité sur mon visage. Ça arrête de tourner. Les points noirs disparaissent. Le ciel est bleu au-dessus de moi. Des sons. Le craquement des branches, le vent dans les feuilles, des oiseaux, une rivière peut-être au loin. Puis une odeur enveloppante de sapin tout autour de moi. Puis d'autres plus subtiles qui se dégagent. Une plus présente que les autres, comme une fleur qui me regarde. Je m'assieds en indien, je regarde la fleur me regarder. Le soleil se couche sur un lac devant moi. L'eau est calme. Il y a comme une paix qui s'installe. Quelque chose que j'avais jamais vraiment ressenti auparavant. Je suis là. Je suis vivant. Je me sens dissoudre dans le sol. Prendre racine. Je sens une sève monter en moi, une énergie qui revient. Je prends des grandes respirations. Je me gonfle. J'ai un vide qui se remplit. Je retournerai plus jamais sur l'autoroute.
Les bienfaits de la forêt. Chaque fois qu'on y entre et qu'on s'y attarde, la forêt nous accueille. Bienfaisante, bienveillante. On y reçoit mille messages de sagesse et d'amour. Elle est là, apparemment fixe et comme en attente, mais dans le fond, elle est toujours en mouvement. Pour les animaux à sang chaud, chevreuil, lièvre, loutre ou marmotte, il est essentiel de suivre le soleil, la voie de l'eau ou des vents, et parfois filer très vite pour éviter d'être gelé, dévoré par un prédateur, fusillé par un chasseur ou pire, chassé par les bulldozers des bibites à deux pattes, implacables prédateurs. Dans les petits bois, les friches sauvages ou l'immense forêt boréale, la plus vaste au monde maintenant, qui fait rêver bien des financiers, libéraux et autres, en forêt, partout, toujours, tout germe, pointe et s'élève continuellement, cycle de la vie bien rodé, en mouvement ascendant. Selon la grande loi du naître, croître, mourir et nourrir, le monde qui reste par les écrits, les petits, les traces et les gestes que l'on laisse. Chez les plantes, par exemple, tout est élévation et reproduction. La semence devient jeune pousse, feuilles et fleurs en expansion, cherchant ses forces et ses nutriments par ses racines et radicelles, profondément dans la terre, elle-même en mouvement, pour mieux s'élever et par ses extrémités capter plus de lumière. Même si à peine un cinquième des graines deviennent arbres ou fruits, toutes tentent de survivre, semant au bon moment leurs graines fertiles ou pas. Ainsi, chaque espèce veut s'étendre, se répandre et se perpétuer. Même les lichens et les mousses, végétaux ancestraux, sont bons à manger, et pas que pour les caribous. Ou utiles pour se soigner, si on sait encore les préparer. Car tous les êtres vivants, humains compris, dépendent des plantes, pour respirer, pour commencer. Ah, la forêt, abri, consolatrice, oasis, refuge, garde-manger, médecin. Avec les marais, le seul lieu intouché depuis l'aube des âges. La grande forêt nous a tant donné, mais en retour nous l'avons malmenée, presque totalement ratiboisée, au point de nous mettre nous-mêmes en danger. Sous tous les horizons de la terre, nous lui nuisons, souillant même l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons. Puissions-nous nous réveiller à temps et saisir ces chants subtils et lancinants à force de l'écouter, la connaître, la comprendre et ainsi mieux l'aimer. Saluons-la bien bas, racontons-la, protégeons-la avec les biologistes, les écologistes, les journalistes, comme ici, hein, les poètes et quelques trop rares élus, hélas, dans les parcs nationaux, fédéraux, municipaux, les aires protégées, les fiducies, même les petites forêts privées du sud, celles de vos propres familles, je vous le dis. Individuellement et en groupe mieux organisé, il est encore possible d'agir et de réagir pour que dans 100 ans encore, les petits humains puissent l'admirer en paix. En attendant, allez souvent vous promener dans les bois, chanter, jouer, marcher, méditer, rêver, amener vos amis, vos enfants et vos parents pour cette magie renouvelée qu'offre une vieille forêt encore debout pour l'amour de la vie. Protégeons-la du mieux que nous pouvons, avec passion et véhémence, jamais en avance, jamais trop tard. Espérons.
Entre les rivages des océans et le sommet de la plus haute montagne est tracée une route secrète que vous devez absolument parcourir avant de ne faire qu'un avec les fils de la terre. Khalil Gibran. Cette route secrète vous mènera là où l'homme a rarement mis le pied, là où la nature est encore intacte. La forêt y est dense, la végétation abondante et la pollution absente. Ces endroits magiques sont cachés. Seuls les grands passionnés de la nature y ont accès. La rivière est leur route et le canot leur moyen de transport. Le canot, merveilleuse création amérindienne, permet de se rendre là où les autres moyens de locomotion échouent. Il se faufile sur des petites rivières rocailleuses et se portage bien sur les épaules pour se rendre d'un lac à un autre ou pour contourner les obstacles. Autrefois, le canot était indispensable aux Amérindiens pour se déplacer. Il était fabriqué en écorce de bouleau et quelquefois en orme ou en sapin. Ce chef-d'œuvre de l'équilibre et de légèreté avait été adopté par les colons français qui l'utilisaient pour aller marchander des fourrures avec les Amérindiens ou pour se rendre d'un poste de traite à un autre. Aujourd'hui, le canot est devenu un loisir pratiqué par des personnes qui souhaitent vivre une aventure unique en nature. On le considère aussi comme un sport qui permet de se surpasser physiquement et psychologiquement, tout en se divertissant. Des techniques ont été élaborées pour manœuvrer le canot efficacement. Dans certains canots, on peut y asseoir deux personnes, mais il existe aussi des canots solos. Il existe même des canots appelés rabaska, qui peuvent accueillir jusqu'à 12 personnes. On peut se demander où canoter. Au Québec, des lacs et des rivières, on n'en manque pas. Les rivières doivent être suffisamment larges, profondes et avoir un bon débit d'eau. Il est aussi important de choisir une rivière qui nous offre un niveau de difficulté adapté à notre expérience de canotage. Arrivé à destination, on savoure enfin l'instant présent. L'installation du campement est un moment privilégié pour s'approprier, ne serait-ce que quelque temps, une partie de cette nature qui s'offre à nous. Dans les parcs, des sites sont aménagés pour les campeurs afin de minimiser l'impact de leur présence. Il faut utiliser l'espace de façon à laisser le moins de traces possible de notre passage, voire repartir en laissant le site plus propre qu'à notre arrivée. Le canotage et le canot camping sont des activités idéales pour se ressourcer et se recentrer sur nos vraies valeurs, celles qui guident nos rêves. L'exploration de nos forêts québécoises peut se faire par plusieurs chemins. Le canot vous mènera, sans l'ombre d'un doute, vers ces nouveaux horizons.
Un texte de Caroline Giguère, tiré de Aube, le recueil de solutions. Adaptation et narration de Marie-Claude Tardy.
Cet automne, j'étais dans le bain, dans l'eau, justement. Puis j'ai eu une vision. Là, j'ai commencé à voir des personnes. J'ai vu Félix. J'ai vu Steve. Puis là, je me voyais en canot. Puis demander aux Anishinabés, à eux, la permission d'aller vivre sur le territoire. Puis de vivre de subsistance, de se connecter avec la Terre, de guérir notre relation avec la Terre puis les Premières Nations dans un seul voyage. On a... De fil en aiguille, il rejoint toutes les personnes clés, puis toutes les portes se sont ouvertes, ce qui nous a amené à vivre cette expérience-là en forêt.
Trottant très lentement, écorniflant racoin, scrutant hutte à lutin, en écoutant le vent, sous la voûte des arbres, le corridor des fables, un doigt fort épinette me repeigna la couette. Un doigt fort épinette me repeigna la couette.
Ben pour moi, la forêt, c'est vivant. Puis c'est la démonstration concrète qu'on est une espèce importante parmi des millions d'espèces importantes. Puis qui sont capables de s'harmoniser sans l'intervention de nous les humains qui parfois se faisons croire qu'on est vraiment particulièrement important. Ou... On dirait que de voir à quel point la forêt est riche en diversité, à voir que la vie crée sa propre beauté, puis moi d'être témoin de ça, puis de plus en plus de me sentir unie, tu sais, avec l'eau qui nous a portés, qui nous a transportés, avec les poissons qui nous ont nourris, avec les plantes de bord de l'eau qui nous ont nourris aussi.
C'est de reconnaître la magnificence de la nature, comment est-ce qu'elle est bien faite, puis de me remplir de la beauté, puis de sentir que je suis partie de cette beauté-là, puis de me rendre super humble par rapport à toutes mes propres souffrances dans ces contextes de forêt.
Ben j'aime vivre en forêt, c'est... Je pense... comment je pourrais dire ça? C'est la partie de ma vie que j'ai appris à être un homme. À être quelqu'un seulement. C'est un ordre de vivre en forêt, c'est le fun.
Je souhaite pour tout le monde des opportunités de chance pour aller dans le bois sauvage, puis de passer vraiment du temps. C'est tellement précieux, les endroits sauvages. Oh God!
C'est le fun! J'adore ça! On voit pas souvent des petites îles comme celle-là. Des petites îles où est-ce qu'on va chercher les canneberges, moi, j'ai jamais cueilli des canneberges chez moi. Parce qu'il n'y en a pas.
Si je me compare aux autres personnes de ma classe, je dirais que. On n'a pas les mêmes sortes de parents, fait qu'ils ne nous enseignent pas les mêmes choses. Comme eux, mettons mes amis, leurs parents les enseignent ABCDE. Puis moi, ils m'enseignent c'est quoi un boulot, tu sais.
Voyage comme ça, je me sens chez moi, je me sens normal, tu sais. Fait que de vivre là-dedans, c'est comme ma normalité pour moi, mais là, cet hiver, j'ai vécu en ville, puis je me suis senti me déconnecter, puis je le savais, là. De revenir, là, ça m'a remis à ma place, tu sais. Puis ça m'a reconnecté avec les fils qui étaient déconnectés, là, tu sais.
Moi, ce que j'ai senti pendant le voyage, c'était vraiment une distance. C'était comme j'entrais dans un nouveau monde que je ne connaissais pas. Puis tout le long du voyage, plus on était en harmonie nous-mêmes, plus je me suis sentie que je pouvais former part de la terre, de l'eau, de chaque plage où on était. Pareil qu'un poisson, je faisais partie de l'écosystème.
C'est une façon d'embrasser la vie. Puis la vie m'embrasse aussi. La nature m'embrasse. La nature m'accueille. Je le sens, tu sais. Pour moi, C'est un besoin vital, c'est un besoin viscéral. C'est comme ça. Je suis fait comme ça. J'ai besoin de vivre ça, ces moments-là. J'ai besoin de tremper là-dedans un peu à tous les jours de ma vie. Tu sais.
J'apprends à découvrir la terre-mère à son rythme, puis au mien. Parce que dans le fond, on fait un. C'est comme si on se rappelle d'où on vient, puis qui on est, comment on est fait. c'est assez puissant de voir à quel point on a été bien nourris par la terre. Puis que c'est encore possible aujourd'hui, en 2015, d'aller vivre de même dans le bois, en gang.
Chassés par les Anglais des rivages atlantiques, les Abénakis vivent au milieu des Français depuis 60 ans. À chaque guerre de la Nouvelle-France, ils repartent punir les Anglais et leur font payer cher le vol de leurs terres, la mort de leurs frères. Sur les rives de la rivière Saint-François, Odanak, leur plus beau village fête ce soir de nouveaux époux. Il n'y a pas beaucoup d'hommes, et ceux qui sont là repartiront demain pour la guerre. Mais pour l'heure, la danse et les chants inondent les cœurs d'une joie profonde. Avec ses cheveux noirs et sa robe blanche ornée de fleurs et de coquillages, Marie-Coué, la plus belle indienne, triomphe dans la nuit par son regard lumineux, par sa beauté céleste. L'homme qui l'épouse, guerrier magnifique aux parures ancestrales, comble parents et amis d'un bon vin de France, de délicieuses fenaisons indiennes, mais surtout de prodigieuses rations de pain. Quand ils se retirent pour la nuit, dans leur demeure française près du plus grand wigwam, les mariés se glissent nus sous des pelisses de loutre et de martre, cousues par des vierges et bénies à l'eau de Pâques. Les mots Abénaki se réinventent cette nuit-là, dans l'incandescence amoureuse, les mots du silence et de la lumière. Marie-Coué, la dernière de ce nom, héritée d'un ancêtre breton, adoptée par la vieille nation sacrée, garde encore de ce sang marin dans la douce ondulation de ses hanches, dans la chaude expression de ses lèvres. Ah, pour dire si elle est belle, elle l'est pour tous, français comme indien. Mais c'est un Abénaki qu'elle a choisi, du clan des Obomsawin, Charles-Pierre, guerrier le plus renommé de la nation. Depuis toujours, il cherchait sa présence, son regard, cueillant pour sa mémoire l'image d'un battement de paupières, la trace d'un parfum, le reflet du soleil dans ses cheveux. Ce matin-là, Marie venait d'avoir 16 ans. Il lui avait fallu des mois pour tisser cette robe incrustée de motifs mystérieux, compris des seuls membres de son clan. Son voile était le même que celui de sa grand-mère, Coué la première, qui savait, paraît-il, faire le wampum, mais aussi des coiffes de dentelle. Maintenant, c'est l'éclat de la lune qui abreuve de lumière sa nudité, faisant couler sur son galbe le doux vin de l'enivrement amoureux. Elle ne sait pas que dehors guettent les loups. Dans le noir, la mort attend ses proies. 200 Rangers, des troupes d'élite coloniale, attendent le moment de leur vengeance. La semaine précédente, les Abénaki avaient reçu un émissaire de l'armée anglo-américaine qui leur avait demandé, au nom du général Amherst, d'abandonner leur alliance militaire avec les Français. La réponse, c'était non. Le 4 octobre, à l'aube, la troupe anglo-américaine surgit dans le village endormi et entreprend le carnage. Depuis 150 ans, les Yankees massacrent les Abénakis. Ce matin, c'est une vieille tradition qui se renouvelle. Hommes, femmes, vieillards, enfants, c'est comme du gibier, des truies qu'on égorge. Quelle joie de tuer, quelle jouissance! Des Indiens, ce ne sont pas des humains. Peut-être le bonheur est-il une insulte pour les Yankees. Peut-être la beauté provoque-t-elle la haine. Dans son lit, dans les bras de son époux, Marie-Coué meurt, le corps percé de balles. Le sang coule du lit nuptial jusque sur cette blanche robe piétinée par les serviteurs de la mort. Marie-Coué, l'Abénaki, au nom français, ne fera pas d'enfant, s'éteindra sans descendance, sans révolte à cultiver, sans avenir à rêver. Le Yankee, heureux jusqu'au délire, fête avant de partir sa grande victoire contre la race indienne. Après avoir tué la Benaki, le Yankee sera-t-il assez fort pour frapper le Français? Il reste du sang à verser, des peuples à dompter, mais l'empire anglo-américain commence à exister. Pourtant, ce soir, la conscience vacille. Une lumière aveugle le discours. L'ordre impérial se dilue. Le monde a beau plier les chines, la noce refuse de se dissoudre. La belle noce de Marie Coué.
L'écoute de Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde.
Plus tôt, en début d'émission, nous avons entendu un slam de Annie Schneider, intitulé « Les bienfaits de la forêt ». Le récit du voyage en canot dans le parc de la Vérendrye de notre chroniqueur nomade Guillaume Girard. Des conseils pour votre prochain voyage en canot avec la capsule « Lac et rivière, tracé de rêve ».
Et juste avant la pause, vous avez entendu l'adaptation radiophonique de Marie Coué, un texte de René Boulanger tiré du Théâtre de la Résistance, un montage de Carlo Bellomo avec la voix de Maude Campo.
Si vous avez manqué la première partie, toutes nos émissions vous sont offertes en balado et peuvent être téléchargées via laplumedefeu.com et le CIBL1015.com.
À venir dans la deuxième partie, radio-théâtre de Discours des arbres de la forêt,
un reportage sur Terre à vie, un fonds foncier communautaire qui s'assure de préserver des terres à perpétuité au Québec. Les 7 principes du camping sans trace.
Et pour l'instant, voici Annie et Guillaume qui nous tracent le portrait de la forêt et de l'industrie forestière au Québec.
Le Québec a toujours été vu comme un vaste territoire aux ressources illimitées. Sur l'immensité au nord du Saint-Laurent, la forêt s'étend, semble-t-il, à perte de vue.
J'avais envie, et c'est le moment ou jamais, de vous parler de l'état de la forêt québécoise actuelle. Et ce que je constate les années passant, c'est un constat malheureusement désolant. Il y a de moins en moins de grandes forêts matures, debout. On est très loin du 8% pour qu'il y ait une biodiversité, une régénération naturelle. En réalité, au Québec, on est tout près du 5%, à peu près 4,8%, incluant la forêt publique du nord québécois, hein, les terres de la couronne en fait. Et dans le sud du Québec, c'est-à-dire tout le sud, la forêt méridionale de feuillus, particulièrement la forêt laurentienne, on est à 2,8% de territoire sauvage encore, naturel. Ce qui est très, très peu. Hein?
Au Québec, c'est le ministère des Ressources naturelles qui gère la forêt au nom de la collectivité. Il octroie pour l'utilisation des ressources forestières des contrats d'approvisionnement et d'aménagement forestier, qui, selon la loi sur les forêts, représentent des volumes de bois que le gouvernement garantit sur une aire d'exploitation.
Encore il y a quelques jours, je suis montée à Québec et là où il y avait des tourbières, tout près de la région des tourbières de Saint-Louis, de Brantford, Victoriaville, je me promenais dedans à la fin mai quand tout est en fleurs, les calmias, les rhododendrons, le thé du Labrador, parce que ça aussi c'est un autre écosystème, ça fait partie de la forêt même si c'est les marécages, la tourbière, mais ça fait partie des 2,8% de terre. Donc coupe à blanc, tout ça pour soit le développement immobilier ou alors la culture intensive de maïs.
Depuis le milieu des années 80, la méthode de coupe la plus employée en foresterie au Québec est la coupe avec protection et régénération des sols. Il s'agit essentiellement d'une coupe à blanc, avec la particularité que les machines doivent toutes circuler dans les mêmes sentiers pour extraire les arbres de la forêt, ce qui limite le tassement du sol. Même si cette coupe représente une certaine amélioration, les coupes menées de cette manière sur des dizaines, voire des centaines d'hectares, mènent à des conséquences écologiques catastrophiques pour la faune et l'écosystème en général. L'habitat des animaux sauvages est réduit à des bandes de 20 mètres que les compagnies forestières doivent laisser entre deux coupes. Bien sûr, les forestières procèdent ensuite à un reboisement, mais elles plantent principalement quelques essences d'arbres à haute valeur commerciale, comme l'épinette noire, le pin gris et l'épinette blanche, sans égard à la biodiversité, ni au type de sol des endroits à reboiser.
Je me souviens d'un soir, j'étais assise sous un arbre dans le bois, je grattais la terre et il y a un rayon de soleil qui frappait l'humus que je tenais en main. Je voyais ça, je vous jure, j'ai eu un grouillement de vie, plein d'orgues de petits points lumineux qui se déplaçaient, toutes ces formes de vie si différentes, interdépendantes, qui s'entraident, peut-être qui s'entre-dévorent aussi, mais toujours par nécessité, jamais par cruauté.
Pourtant, l'industrie forestière est une activité éminemment lucrative. En 1999, elle avait généré au Québec 4,67 milliards de dollars. La majorité de cette somme provenait des pâtes et papiers, qui avaient produit 10 millions de tonnes de produits. De cette quantité, 7,7 millions de tonnes étaient exportées outre-frontière. L'industrie forestière québécoise vend principalement de la matière première à faible coût, qui nous revient transformée, et donc beaucoup plus chère par la suite. Il y aurait toujours environ 250 communautés dépendantes à plus de 50 % de l'industrie du bois. Cette situation ne favorise pas l'émergence d'une diversification économique et la rend vulnérable à la fluctuation des cours du bois et de l'approvisionnement en matière première. Cela est d'autant plus vrai que ces régions, privées de leur patrimoine écologique, ne peuvent pas aisément développer des activités récréotouristiques comme des pourvoiries, la chasse, le camping, le tourisme d'aventure et le tourisme vert.
Je lui ai demandé « qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour la forêt ?» Il a dit « dans l'état actuel des choses, la laisser pousser tranquille. » C'est vraiment ce qu'il y a de plus urgent, de préserver les dernières forêts qui restent. Et heureusement, il y a quelques organismes qui le font. Aller à la Maison du Développement Durable et l'Action Boréale de notre cher Richard Desjardins. Et c'est un des seuls organismes qui défend la forêt publique, la forêt boréale, qui elle aussi renferme bien sûr des espèces rares et hautement menacées par le plan Nord et autres acolytes écosidaires. Il faut se réveiller parce que la situation est grave, encore plus dans le sud du Québec qui recèle encore plus de diversité.
Évaluons les alternatives à ce mode d'exploitation destructeur. D'abord, à petite échelle. La ferme forestière de 100 hectares, Windhorse Farm, est aménagée depuis 160 ans sans compromettre le volume de bois récolté. On y récolte des arbres individuellement ou en petits groupes avec l'aide de chevaux. On y récolte seulement les essences à haute valeur commerciale. Le bois de la ferme est destiné à être transformé en produits ayant une grande valeur ajoutée, comme des instruments de musique, des meubles et des planchers de bois. Ensuite, des réponses citoyennes, comme la Corporation de la gestion de la forêt de l'Aigle. Cette corporation regroupe plusieurs intervenants municipaux, privés et autochtones qui tentent de composer avec deux concepts, la gestion intégrée des ressources et la foresterie durable. Sur le territoire, aucun CAF n'est octroyé, et les objectifs de la corporation sont d'assurer la production de matières ligneuses en même temps que les activités récréotouristiques. La population peut ainsi profiter à la fois des retombées économiques de l'activité forestière et du patrimoine écologique qui est sauvegardé. Finalement, afin d'assurer la viabilité et la reconnaissance des pratiques responsables en foresterie, différents labels de certification ont vu le jour ces dernières années dans le monde. Cette certification se veut, comme l'agriculture biologique, une garantie d'intégrité du mode de récolte autant que la saine transformation des produits issus de la forêt. Parmi les plus importants organismes de certification, mentionnons Smart World et Forest Stewardship Council.
Faites ce que vous pouvez pour protéger les forêts, qu'elles soient privées, publiques ou autres. Et si vous avez du fric, le mettez pas à la banque, mais achetez des bouts de forêt. Et aussi faites des démarches pour les fiducies foncières, par exemple.
Bref, contrairement à ce que le discours dominant laisse entendre, les alternatives viables et profitables pour toutes pullulent.
Prenez soin de votre forêt, étudiez-la, aimez-la, allez-y souvent. C'est une thérapie en soi, la sylvothérapie. Prenez soin de vous et de la suite du monde.
À quand remonte votre dernière marche en forêt?
Hey, je crois que j'ai besoin d'un peu d'air frais, d'une balade en forêt, je sais plus trop ce que je fais. La vie use.
Parce que c'est pas tout d'aimer aller en nature. On veut pouvoir y retourner souvent et chaque fois la retrouver tout aussi belle que la fois d'avant. Voici les 7 principes de camping sans trace ou quelques trucs qui vous permettront de respecter la nature lors de vos excursions en forêt. Numéro 1. Prévoir et préparer à l'avance son excursion. Pour ce faire, renseignez-vous sur la réglementation en vigueur et les particularités de la région que vous souhaitez visiter. Soyez prêt à faire face aux intempéries, aux risques naturels ou à une urgence. Planifiez votre excursion afin d'éviter les périodes de forte fréquentation. Numéro 2. Voyager et camper sur des surfaces durables. Les surfaces durables sont les sentiers et les sites de camping existants. Les dalles rocheuses, le gravier, l'herbe sèche et la neige. Un bon site de camping se trouve, mais ne se fabrique pas. En ce sens, altérer un site n'est vraiment pas nécessaire. Numéro 3. Gérer les déchets de cuisine et les déchets humains. Remportez ce que vous apportez. Ainsi, inspectez les lieux de halte et de camping pour ne laisser aucun déchet. Emportez tout reste de nourriture ou détritus. Quant aux excréments humains, déposez-les dans des trous profonds de 15 à 20 cm creusés dans le sol à plus de 70 mètres de tout campement, sentier ou source d'eau. Masquez chaque trou après l'avoir rebouché. Et d'ailleurs, si vous me permettez... ça fait du bien. Numéro 4. Préserver l'environnement. Laissez les pierres, plantes ou tout autre objet naturel tel que vous les avez trouvés. Aussi, évitez de transporter ou d'introduire des espèces indigènes. Numéro 5. Minimiser l'impact des feux. Faites des feux de petite taille en utilisant uniquement du bois mort ramassé au sol et pouvant être brisé à la main. Réduisez bois et braise en cendres, éteignez chaque feu complètement et dispersez les cendres refroidies. Numéro 6. Observez la faune à distance. Ne suivez pas, n'approchez pas et ne donnez jamais de nourriture à un animal sauvage. D'ailleurs, on entend des beaux petits oiseaux en ce moment. Ceci peut être néfaste à sa santé. Allô, petit oiseau? Ça peut altérer son comportement et l'exposer à un prédateur ou tout autre danger. Protégez la faune et votre nourriture en stockant vos rations et vos déchets dans un endroit sûr. Numéro 7. Soyez respectueux des autres visiteurs et de la qualité de leur expérience. Ainsi, laissez dominer les sons de la nature. Parlez doucement et évitez la pollution par le bruit. Ah, d'ailleurs, j'arrive. Sur ce, bon camping!
Sans forêt, serait-il possible de respirer? Je dirais sans doute oui, mais d'en vivre certainement pas. Il en est de même avec l'ouverture d'esprit ou la bonne humeur. Il est possible de s'en passer, mais pour autant que je m'en souvienne, les vrais humains sont les seuls capables de les trouver nécessaires. Cette verdoyante clarté à l'atmosphère encore sauvage est l'image que nous nous faisons de la forêt et de la nature urgente et sévère de notre mère nature. Une toison, macrocosme terrestre dans lequel les contes nous font nous y perdre et les balades y flânent. L'arbre m'a inspiré maintes et maintes fois pour écrire quelques poèmes et troussés par la même de jeunes femmes dans le mal bien éphémère de la courtoisie. Mais passons là mes histoires personnelles, car si je parle d'arbre, je parle également d'hommes. Nous sommes en tout point semblables à ces géants arborant la verte feuille et le sifflet du vent. Qu'est-ce que le parfait gentleman, si ce n'est l'être enraciné dans ses traditions, droit dans ses bottes, flânant l'air léger vers l'acmé extrême des horizons ésotériques que le cieux lui laisse entrevoir? La nature a de grandes choses à nous apprendre. Dans notre petitesse, accroissons notre savoir et cultivons-le. Le travail au champ, le labeur, sont des vertus à conserver dans une société où nous nous amoindrissons par la facilité technologique. Le bain mousseux de l'ergotage couplé à la soupe intellectuelle et son bouillon d'inculture attendrissent parfaitement notre viande et nos âmes. Au contraire, s'astreindre à l'équilibre naturel et s'y soumettre sans même broncher permet d'entreprendre le fabuleux chemin vers l'épanouissement de notre nature. Deux natures se croisent pour n'en former plus qu'une. Pour finir, je citerai Ambrosius Sinusas dans son recueil sur les moissons. Ciel, que la terre est douce et que ma nature s'enterre dans ce tendre grumeau. J'y pousserai bien net, bien droit, pour construire un monde où je serai un homme.
La fameuse tyrolienne.
La fameuse tyrolienne.
Ouais. C'est ce qui nous a permis de tout habiter l'autre côté, là, de pouvoir explorer l'autre côté de la terre, parce que c'est inaccessible. Il n'y a pas de pont, il n'y a pas de route. Il faut traverser une rivière ou y aller par le lac. Au début, la première année, on faisait comme les premiers coureurs des bois. Là. On passait par le lac toutes les fins de semaine en canot avec nos bagages. On venait explorer tout le territoire. Avant de décider quelles zones on était pour développer, lesquelles on était pour protéger, les zones humides, tout ça.
Bonjour.
Fait que c'est
Philippe.
Ça.
Bonjour
Philippe.
Enchanté.
Philippe, c'est notre petite yourte.
Eh bien, la yourte.
Oui.
C'est combien de pieds, ça, à peu près? C'est un diamètre de... 26 pieds de diamètre?
26 pieds de diamètre.
OK.
C'est traditionnel de Mongolie, avec les, comme tu vois, les peintures.
OK.
C'est en toile, en gros coton. Entre le coton, c'est de la laine de mouton.
Ici, c'est un cabanon pour les outils, toute la quincaillerie là, qu'on a besoin. Ouais, pour les jardins, tout ça. Ensuite, il y a la toilette à compost, le four à pain à pizza. Ensuite de ça, il y a les tentes en haut, puis il y en a aussi en bas pour les stagiaires qui viennent, les bénévoles, tout ça. On les loge dans cet endroit-là. Ensuite de ça, comme bâtiment, il y a surtout de ce côté-ci. De l'autre côté du lac, bien, il y a le centre nature. Il y a un petit modèle d'éco-gîte.
Donc, on est dans un environnement extrêmement boisé, un sol rocailleux, beaucoup d'eau, beaucoup de plans d'eau, beaucoup de rivières, beaucoup de lacs. Et c'est terre vie ici, magnifique rivière, lac. C'est vraiment un écosystème magnifique.
Je te cherchais. Alors, on est où ici?
Ici, on est sur le sommet du jardin. On est en train aussi de construire une serre en forme de dôme géodésique. C'est très varié. Parmi des plantes déjà sauvages, des framboisiers sauvages, des mûriers sauvages, des cassis, des groseilles, des guedelles, tous les petits fruits. On essaie de rendre ça le plus productif possible. Puis on était ici en forêt, c'était que des arbres. Fait qu'il a fallu se faire une place au soleil pour le jardin, on a besoin de soleil. Puis comme on est au-dessus d'une butte, il fallait de l'eau. Alors l'eau, on l'amène par une pompe bélier jusqu'en haut, au sommet ici, elle est accumulée en haut. Ensuite de ça, ça remplit tous les bassins qu'on a creusés à la main et ça fonctionne très bien. Ça nous apporte l'humidité, ça amène des grenouilles, des couleuvres, alors ça permet de contrôler un peu les insectes, ça amène les oiseaux, ça amène les chauves-souris. Alors c'est d'essayer de composer avec tout ça, puis ça va bien.
On y va pas à pas parce qu'il y a un certain aspect qu'il n'y a pas beaucoup de projets écologiques, éco-village ou de conservation dans la région. Nous, à la base, on est un organisme de conservation. Et quand on allait dans des rencontres provinciales, le réseau des milieux naturels qui organisait ces rencontres de conservation, souvent il y avait 200 personnes, organismes du Québec et on était une poignée de main des Laurentides. Donc, on se disait, c'est une des régions ici, Canton de l'Est, Charlevoix, qui sont les plus fréquentées peut-être au Québec au niveau achalandage, écotourisme, services, sports et tout.
Tranquillement, pas vite, il faut les apprivoiser, il faut les informer de ce qui existe parce qu'eux sont habitués à des choses déjà toutes faites. Ils engagent des urbanistes qui font de la réglementation de la municipalité. Souvent, c'est copié sur une ville comme Laval qui n'a aucun rapport avec la ruralité. Puis quand ils appliquent ça, ça n'a aucun sens, souvent. Fait que là, tranquillement, pas vite, avec tout tout ce qu'on leur apporte comme information sur les différentes façons d'aménager les territoires, mais ça aide un peu. Ils sont de moins en moins réticents, mais ils veulent voir.
Vous allez pouvoir accueillir combien de personnes ici?
Ici, pour les conférences ou les assis, là, peut-être 40 à 50 personnes qui vont être. Ça va être très versatile comme mobilier. Ça va changer vite. On veut faire des projections aussi sur le mur, des films, des documentaires.
Nous, quand on a acquis Terre-et-Vie ici à Montcalm, c'est préservé à perpétuité. C'est quand même 288 arcs. Et quand ça a sorti au début des journaux, ils nous disaient « Wow! » C'est un peu différent parce qu'il y a beaucoup de spéculation foncière dans la région. C'est quand même des terrains qui ont coûté beaucoup d'argent. On les a achetés. On a eu une aide en partie du ministère de l'Environnement pour les aires protégées en milieu privé. Mais c'est quand même une aide d'une partie. Le reste, il fallait trouver de l'argent pour préserver la perpétuité des terrains. Donc, ça n'allait pas dans le commun du mortel à dire « on achète ». On développe, ça va être beau et on revend.
Il y a plein de projets comme ça. Mais il y a beaucoup de projets, mais il y a peu de créateurs qui.
Oui. Pourquoi de votre temps?
Je ne sais pas. Et encore, ils ne sont peut-être pas assez impliqués dans leur changement de vie. Je ne sais pas. Il y en a beaucoup qui ont beaucoup de les intentions de venir, mais c'est difficile de s'arracher d'une vie moderne. Mettons, ceux qui viennent de Montréal, surtout, sont habitués à une vie plus mouvementée, tandis qu'ici, c'est quand même relativement calme. C'est la nature. Alors. Et de recréer son travail ici, c'est pas évident pour ceux qui sont pas prêts encore. Fait que je pense que tranquillement, de plus en plus, avec l'évolution de la société, ça va finir par être de plus en plus populaire à ces endroits-là.
Terre-et-Vie est un organisme de conservation dont le but est de protéger à perpétuité une terre située à Montcalm, dans la région des Laurentides, environ 1h30 au nord de Montréal. Ceux-ci sont à la recherche de pionniers et de résidents pour porter des projets écologiques, sociaux et communautaires. Nous avons entendu Paul Cazava et Nicole Fafard, les deux fondateurs de Terre-et-Vie, qui ont fondé le projet en 2003. Il fait nuit. Le ciel est clair. On ne peut voir les étoiles scintiller à travers la lucarne, car la lune est pleine et sa lumière aux cieux aveugle la mémoire de tout autre qui pourrait aussi y briller. Majestueuse, elle éclaire tout l'intérieur. Une branche de pin gratte ses aiguilles contre la toile. Le vent la fait nous parler d'une voix étrangement familière. En bas, dans la vallée, hurlent des coyotes qu'on croirait soudainement tout près de nous. Dans la yourte, on se colle avant de refermer les paupières.
La yourte est un type d'habitation traditionnelle mongole de forme ronde. J'en ai habité une durant l'automne. Je me suis sentie à l'aise à tous les niveaux de mon être et j'ai souvent contemplé, pendant ce temps, mon appréhension grandissante à l'idée de retourner vivre dans un espace cube à angle droit, forme courante des logis, ici et maintenant. Non seulement j'aimais le style de vie simple, mais surtout la sensation de faire partie du monde naturel. Tant par le contact direct des sens que par l'énergie dégagée par l'espace de ma tanière humaine. Ça aurait pu être le mien, ce hurlement porté par l'écho sur la montagne un soir de pleine lune. À travers le monde, les habitants traditionnels des peuples autochtones empruntent les matériaux et font écho aux formes harmonieuses du monde naturel. Le lien de ces peuples avec la nature, ses vibrations et énergies, est étroit. La yourte est le style d'habitation traditionnel des steppes mongoles, aujourd'hui encore en usage majoritaire dans son pays d'origine. Depuis des siècles, des tribus nomades y parcourent les plaines avec leurs cheptels. Les crinières des chevaux battent au vent, les yaks résistent au grand froid qui vient avec l'hiver, et la yourte y résiste aussi. Construite avec les matériaux disponibles, la charpente est de petits arbres, la toile de couverture est de feutre. La yourte est donc conçue pour être structurellement résistante, isolée et facile à chauffer, ainsi que facilement transportable sur une seule bête. L'efficacité de la yourte mongole réunit la force structurelle à l'utilisation minime de matériaux. La yourte moderne nord-américaine vise à garder l'apparence de la forme ancienne en y associant la technologie moderne. Elle se compose d'un mur en treillis de bois, courbe de sorte qu'il ait la forme d'un cercle et d'un câble de tension fixé à son sommet sur toute la périphérie. Sur celui-ci reposent des chevrons constituant la charpente du toit, retenus au centre par un anneau central. Deux toiles sont utilisées. La première enveloppe les murs et la deuxième vient couvrir le toit. Une lucarne peut être installée sur l'anneau central. Il est possible de faire l'achat d'une yourte ou d'en construire une, des modèles des plus traditionnels aux plus modernes. Pour en assurer l'étanchéité, la yourte est habituellement érigée sur une plateforme surélevée qui sert de plancher et les toiles externes sont constituées de matériaux synthétiques. Plusieurs modèles sont équipés d'un dôme clair, lucarne qui laisse entrer la lumière du jour et de la nuit. À partir du modèle de base, il est possible de les isoler, de les chauffer, de les ventiler, de les équiper de tuyauterie et de faire preuve d'imagination et d'ingéniosité. Mon expérience de la yourte est celle d'une extrême simplicité. Pour toute commodité, elle n'était équipée que d'un petit foyer de masserons au centre de l'habitation pour lesquels je me suis prise d'une affection inhumaine. La yourte peut être utilisée comme tente, chalet, studio ou espace de vie plus ou moins temporaire et plus ou moins amovible, dépendant du style de vie désiré. La construction d'une yourte moderne est un projet d'envergure. La yourte est une forme d'habitation qui relie l'être humain à la nature depuis des siècles. De la yourte mongole, faite de feutres aux yourtes modernes et américanisées, la structure de base est toujours demeurée la même, ayant atteint un très haut niveau de raffinement. Pourtant, à travers les matériaux utilisés et l'intégration culturelle, la yourte est toujours un concept en évolution, s'adaptant au lieu et à l'époque à chaque nouvelle construction.
Pour les références et les ressources, nous vous invitons à consulter notre site internet www.laplumedefeu.com. Un texte de Hélène Cadieux tiré de Aube, le recueil de solutions. Narration, Marie-Claude Journeau.
Nous sommes rassemblés aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, pour faire le point à propos de la lutte menée contre les esprits du profit qui ont causé beaucoup de destruction sur nos nations. Le pacte du silence que nous avions passé, nous les Axi Mundis, avec les humains, était la permission d'un usage sage et modéré de la ressource que nous représentons. En tant que vaillant gardien et détenteur de la connaissance, je nomme le grand chêne président de l'Assemblée.
Oh, merci, mes très chers frères. Je voudrais donner la parole en premier lieu à grand-père Saul pour son esprit de recueillement et son symbole du passage pour nous éclairer sur la situation de manière concrète et précise.
Merci pour ce privilège. Eh bien, voici ce qu'il en est. En 1992, lors de la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement qui s'est tenue au Brésil, le Canada a signé des principes relatifs aux forêts. Suite à cela, il a pris l'initiative de rassembler un groupe d'experts en exploitation écologiquement viable des forêts boréales et tempérées. Suivant cela, il y eut la Convention de Kyoto, la Conférence de La Haye, la Charte de Rio. Toutes ces manifestations démontrent la bonne volonté des humains, tout de même, à vouloir améliorer leurs techniques d'exploitation.
Bien, mais quels sont les réels résultats de toutes ces bonnes résolutions? Y a-t-il vraiment eu du progrès? Je donne la parole à Pommier, toi qui symbolise la connaissance et qui doit amener la paix éternelle et la sagesse sur cette terre.
Le pourcentage d'air forestier intégralement protégé dans les écozones a augmenté de 32% depuis 1992, grâce à la Convention de Kyoto et la mise sur pied du groupe de travail sur les critères et les indicateurs.
Voilà une bien faible amélioration alors que l'on sait que les récoltes forestières augmentent régulièrement. Depuis 1994, c'est 1 million d'hectares par année qui est exploité. Plusieurs arbres et plantes de nos forêts sont en voie d'extinction. Nous devons réagir. Nous ne pouvons laisser faire ce massacre.
Boulot, boulot toi, qu'en penses-tu?
Au-delà du bien et du mal, du perpétuel cycle des dualités, se trouve la vraie nature des raisons du ravage apparent de Mère Nature. Les procédés de la croissance et du développement prennent parfois l'allure de maladies et de la souffrance. Quoi qu'il en soit, il est indispensable d'envisager ces problèmes qui nous touchent tous plutôt comme des défis que des cas de désespoir.
Il faut aussi noter que les communiqués faits par l'intermédiaire des scientifiques environnementaux et des artistes sont inutiles pour une grande majorité d'êtres humains pour qui la prise de conscience ne se fait que par l'expérience vécue. Pour eux, c'est le long cycle des explorations de la vie dans la matière qui est leur guide. Tenter de leur expliquer est vain et inutile.
Notre ébranlement face à l'inconscience de la marge des manœuvres industrielles pourrait produire de violents séismes. Notre révolte jusque-là réprimée pourrait devenir des explosions volcaniques et notre profonde tristesse s'exprimerait au travers de pluies cycloniques.
Il y eut un temps jadis où les humains, vouant encore un culte au divin, comprenaient qu'un manque de vertu pouvait entraîner des catastrophes naturelles, mais aujourd'hui, ils n'y comprennent rien avec toutes les explications scientifiques. Qu'il y ait une cause physique n'empêche pas qu'il y ait une cause spirituelle. Mais bon, leur insouciance actuelle leur amène suffisamment de dégâts et de tracas comme ça, avec les gaz à effet de serre, la contamination chimique des ressources aquatiques.
En résumé, il y a place à l'amélioration, mais il ne faut pas s'affliger de ce qui a été fait. Aussi, il est impérieux de prendre le sens du devoir comme un défi. Si la connaissance est mère de la responsabilité, toutefois, il vaut mieux rester ignorant que d'être envenimé par la haine et le désespoir. La Mère Nature et le Père Céleste savent sûrement ce qu'ils font à travers nous, qui sommes leur création en perpétuel devenir.
Un texte de Héloïse Picard, tiré de Aube, le recueil de solutions. C'est ce qui conclut le 10e épisode de Aube.
Toutes nos émissions vous sont offertes en balado et peuvent être téléchargées via laplumedefeu.com.
Si vous vous sentez inspiré par notre émission, nous vous invitons à participer à celle-ci, car chaque émission est le fruit des collaborateurs du moment.
Si vous avez du réseau dans votre yurt, ou où que vous soyez sur notre grand territoire, il nous ferait grand plaisir de vous lire sur laplumedefeu.com, sur Facebook ou via Twitter.
Dans cette émission, vous avez entendu les œuvres de Guillaume Lambe, Philippe Laramé, Carlo Bellomo, Annie Schneider, Guillaume Girard, Marie-Claude Tardy,
Maude Campo, Dominique Lagu, Jean-Baptiste Gardarin et Marie-Claude Journeau.
À la réalisation, au montage et à la mise en onde, Philippe Laramé et Guillaume Lambe.